Chapitre 74. Pensez à Simon. Thomas n'a dormi que quelques heures. C'est lui qui a conduit hier soir pour ramener Clotilde et Christian chez eux. Il a tenu le temps de la route. Il en fallait bien un qui tienne. Et puis il s'est effondré. Il pensait l'insomnie inévitable, mais le sommeil l'a cherché, sûrement pour le protéger de ses propres pensées. Un sommeil qui l'a emmené loin, avec Simon, dans la forêt, en été, en hiver, tout en haut, au château et même au-dessus des arbres. Il planait dans le ciel de la vallée, une petite main frêle bien agrippée à la sienne, incomplète de quelques phalanges. N'empêche qu'elle tient, cette main, même avec quelques bouts en moins. Et l'enfant riait. Il riait en montrant la cime des arbres juste en dessous d'eux. Le sommeil l'a redéposé à l'aube, délicatement, tout au bord du réveil, à 6 heures du matin. L'heure à laquelle il devait se réveiller pour accomplir ce qui lui tient à cœur. Thomas ouvre les yeux et pense à Simon. Il soulève le drap, s'assoit dans son lit et pense à Simon. Il passe son t-shirt et pense à Simon. Il va pisser ce que les larmes n'ont pas emporté, se passe de l'eau sur le visage et pense à Simon. Il se regarde dans le miroir, les yeux dans les yeux et pense à Simon. Il enfile son pantalon et pense à Simon. Il regarde le café couler et pense à Simon. Il pense à Simon. Il pense. Simon. 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 Le café est froid. Il n'y a pas touché. Quelques instants plus tard, il est en route pour la grande demeure de M. Kuhn. Il a appelé son ami garde forestier. Pierre-Yves est toujours très matinal, surtout le dimanche. Il doit le rejoindre avant la maison du vieil homme. Il devrait arriver en même temps. Thomas a besoin de son aide. Qu'il soit là, peut-être qu'il parle, peut-être qu'il s'occupe de tout. Son ami a trouvé l'idée courageuse mais belle. Belle mais difficile. L'ami lui serre la main en appuyant l'autre sur l'épaule de Thomas. Longtemps. En le regardant. Les hommes ne s'encombrent pas de paroles inutiles. Une poignée de main virile réconforte autant que des mots. « Tu crois qu'il est déjà réveillé ?» demande le garde forestier. « Monsieur Kuhn se lève toujours tôt. Il est peut-être déjà dans la forêt. Tu veux que je parle ?»« C'est à moi de lui dire. On verra si j'y arrive. » Et Thomas y arrive. Une sorte de force sereine. Parce qu'il sait que c'est à lui d'informer le vieil homme. Monsieur Kuhn l'écoute, le regard un peu détourné, pour aider Thomas à ne pas affronter un chagrin de plus que le sien. Il s'assoit un instant, le temps d'encaisser. À son âge, il faut laisser au corps un peu plus de temps pour rassembler le courage de ne pas flancher. Il dit oui, évidemment, pour l'arbre. Il te le faut pour quand? Le plus tôt possible. Tu le veux aujourd'hui? Mais nous sommes dimanche. On s'en fout du dimanche, affirme l'homme en regardant le garde forestier. Il faut juste trouver un bûcheron. Rémi n'est pas là. Patrick est en famille. Pense Pierre-Yves à voix haute. Ils réfléchissent un instant. Ils pourraient bien s'en occuper, mais ils ne sont pas assez équipés. Et puis, il faudra déplacer la bille de plusieurs centaines de kilos jusqu'à l'atelier. Pierre-Yves s'éloigne alors dans la cour en précisant qu'il revient, qu'il a un coup de fil à passer. Il réapparaît quelques minutes plus tard. J'en ai un. Il habite à Solbach, de l'autre côté du col de la Charbonnière. Yann Delvaux. Un indépendant qui dépanne facilement. Il peut venir aujourd'hui, il se fout aussi du dimanche. Il a tout ce qu'il faut. Il sera là vers 16 heures. Tu l'auras ce soir à l'atelier. Ça me laisse le temps de retourner le voir. Merci, monsieur Kuhn. Merci, Pierre-Yves. Je reviens cet après-midi. Vous pourrez m'attendre? J'ai besoin d'être là au moment où il tombe. Avant de partir pour l'hôpital, Thomas passe chez les parents d'Annabelle. Il a de la tendresse pour cette petite fille douce et attentionnée, et d'avance du chagrin de devoir lui annoncer. Il sonne et leur apprend dans le vestibule qu'il a une mauvaise nouvelle. Annabelle apparaît en haut de l'escalier, en chemise de nuit, les cheveux ébouriffés. Elle ne lui laisse pas le temps de parler qu'elle a déjà dévalé l'escalier, le bouscule, et quitte la maison dans ses petits chaussons en courant sans se retourner vers la forêt. Tout le monde a compris. Son père la suit. De loin pour essayer de la consoler. Thomas a prévenu Christian qu'il arrivait. Il se retrouve au pied de l'ascenseur du sous-sol de l'aile B, dans les entrailles de l'hôpital. La morgue est un peu cachée. C'est mieux pour taire la vérité, ou du moins la dissimuler. Il faut laisser l'espoir aux autres, ne pas trop leur mettre sous le nez les risques qu'encourent ceux qu'ils viennent peut-être visiter. Et puis, c'est calme ici, tout au fond, là où il n'y a plus rien après. On n'y passe pas par hasard, ou alors il faut être sacrément perdu. Ils le sont, tous les trois. Clotilde lui offre un sourire dévasté. Elle a dû pleurer toute la nuit. Octée dans les bras de son mari, au bord du gouffre de sa dépression passée. Avec la tentation probable d'y sauter. Ils vont aller boire un café, et puis rentrer. Thomas leur dit de ne pas l'attendre. Il veut prendre le temps.